Alors, dernière demi-heure de l'aérospatiale, toujours Richard Sainte-Marie, Jacques Gignac et Jean-Pierre Gay, auxquels se sont joints et jointes notre amie Catherine F. Gadoury. Bonjour Catherine F.
Bonjour Jean-Pierre.
Et Dan Brault, de bonjour. Même que Christian Messier, salut. Deux artistes. Et on devrait avoir dans quelques minutes Diane Landry qui se joindra à nous aussi. Pour un débat qui, en quelque sorte, fait comme l'envers de ce que nous avons fait lors de ta première venue, Catherine Ève, où c'était les médias face aux artistes. Là, c'est maintenant le contraire. Ce sont les artistes face aux médias.
En fait, c'est la réplique des artistes parce que il y a quelques semaines de ça, on s'est questionné. On s'est demandé pourquoi la relation était difficile entre les journalistes et l'art visuel en général. Dans les médias, grand public, les journaux, la télé, la radio, on parle rarement d'art visuel. Pourtant, il se passe plein de choses à Québec. Alors, on s'est questionné là-dessus. On avait plein de journalistes autour de la table. On a discuté ferme. Alors, on a eu envie de faire la même chose, mais cette fois-ci, avec les artistes, avoir votre opinion. Pourquoi, selon vous, le courant passe mal ou passe pas du tout parfois, Dan ou Christian?
Je vais laisser Christian pour l'instant s'est approché du micro.
OK, bon. j'aime bien avoir plus de jus avant de me mettre à parler, mais en fait, le sujet, évidemment, est très large. D'un côté, on a les médias qui embarquent pas ou font carrément de la diffamation envers le milieu des arts visuels. Et d'un autre côté, il y a un milieu qui veut avoir de la couverture, qui veut avoir un public, mais qui peut-être s'arrange pas tout le temps pour attirer du monde. À force de discuter avec les gens, j'en suis venu à quelques conclusions qui peut-être aident pas vraiment du côté des centres de diffusion, comme par exemple les communiqués. Souvent les communiqués sont écrits, en général, probablement par les artistes, puis veulent être savants, veulent avoir l'air savant, alors que c'est pas tout à fait nécessaire parce que c'est carrément une invitation. Puis donc, si on veut aller rejoindre un plus grand public, peut-être que les communiqués devraient être écrits de façon un peu plus facile à comprendre. Mais en même temps,
là-dessus, je peux juste en nier. Je sais que depuis plusieurs années, les centres aurait le désir, en fait, qu'il y ait deux sortes de communiqués qui soient émis, c'est-à-dire un communiqué plus grand public, puis un communiqué peut-être plus pour la communauté.
Ouais, c'est ça que j'allais...
C'est ça qu'il faudrait peut-être... Mais c'est déjà des choses qui se disent... En tout cas, moi, à l'œil de poisson, c'est une chose qui se discute, là. Mm. Mais bon, est-ce que ça va...
Mais tu vois, ça, c'était intéressant, Dan, parce que il y a quelques années, on n'en parlait jamais. Ici, à l'émission, on en reçoit des trentaines, des quarantaines par semaine de communiqués. Il y en a, on dirait, c'est des communiqués pour obtenir une bourse. C'est écrit pour... Donc, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Donc, nous, il faut aller au quatrième paragraphe pour savoir c'est quoi, puis c'est où, puis c'est quand. Ouais. À la radio, c'est ça qui commence à nous intéresser. C'est quoi, c'est où, c'est quand. La démarche personnelle très intense, c'est intéressant, mais en même temps, on en parlera à l'émission si on l'invite, la personne. Mais pour l'inviter, il faut savoir c'est quoi. Mm-hmm. Mais les communiqués sont pas assez bien bâtis. Comme Christian a tout à fait raison, ils sont pas faits pour les médias. Donc, les médias les ignorent, les mettent à la poubelle ou les comprennent pas.
Mm-hmm. Hein? La semaine passée, à la table, il y avait Mathieu qui parlait des scientifiques qui disaient...
Mathieu Dugal.
Oui, pardon, oui, excusez. Mathieu Dugal qui disait, tu sais, par exemple, en recherche fondamentale, il y a des scientifiques qui vont avoir une approche très... vulgarisateur, si on veut. Je pense qu'il y a des artistes qui sont comme ça. Je pense pas que c'est donné à tous les artistes d'être vulgarisateurs, mais c'est comme s'il faudrait qu'on ait une approche, en fait, dans les centres de diffusion, de vulgariser un peu le propos. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme un complexe des artistes. C'est comme une façon de montrer que ce qu'on fait, c'est sérieux. C'est pas juste, c'est pas juste une joke, notre affaire. C'est certain que le langage artistique peut être complexe, mais c'est pas n'importe quoi non plus. T'sais. Oui, c'est pas nécessairement facile d'accès, mais il y a comme un... Puis il y a des gens qui, je veux dire, des pencheurs, des chercheurs en art, des gens qui sont en histoire de l'art, qui écrivent des textes qui sont pas toujours faciles d'accès, mais qui veulent quand même, c'est quand même pas n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est pas toujours des choses difficiles à lire, ce sont pas toujours des choses qui ont rien à dire, en fait. Là. Fait que je comprends, là, tu sais, c'est comme un...
Mais ce complexe-là vient peut-être du fait qu'il y a certains médias qui passent leur temps à dénigrer le travail des artistes. Ouais. Et ça se fait des fois méchamment sur certaines radios, mais ça se fait aussi, c'est quand on regarde certains grands médias, la semaine dernière, Jean-Pierre me dit « rapproche ton micro, c'est fait ». Alors, la semaine dernière, je mentionnais en fait le travail de Jean-René Dufort.
Oui.
Ça se fait des fois par le biais de l'humour, ça se veut pas méchant, mais à la longue, ça fait du tort aux artistes. Alors peut-être que c'est un réflexe que les artistes ont pour essayer de compenser, éviter qu'on prenne leur travail pour n'importe quoi.
Ouais.
Alors ils essaient de mettre des mots complexes là-dessus.
Ouais, je pense que ça vient aussi peut-être d'une institutionnalisation. Ouais, merci. Ce mot-là, toi, tu vois, j'ai eu bien de la misère dans l'institution. Mais tu sais, l'art est rendu à l'université. De plus en plus, les artistes ont des diplômes de maîtrise, de doctorat. Les centres d'artistes sont très proches de ces milieux-là. C'est un milieu intellectuel. C'est pas une parade de... Je devrais pas dire ça, c'est pas fin non plus, mais c'est pas la parade du Père Noël, là. C'est des milieux qui se veulent sérieux. Ça veut pas dire que ça doit être un milieu qui devrait être opaque, ça, j'en suis d'accord, là, mais je veux dire, en même temps, quand on parlait des scientifiques, je reviens à l'exemple des scientifiques, je pense pas que dans un laboratoire, ils utilisent un langage vulgarisateur, je pense qu'ils utilisent le langage du milieu, puis je pense qu'il y a quelques agents qui viennent en parler, après ça, qui font des conférences, je pense à Hubert Reeve, par exemple, qui fait des conférences extraordinaires, puis accessibles à tous, mais c'est quand même pas le tasse de thé de tous les scientifiques de faire ce genre de travail-là. Donc, je pense que les artistes auraient peut-être une façon de faire qu'il faudrait pour amener ça à nous autres aussi. Je pense à une émission comme ici, Le Fait. Il y a des gens qui le font, ce travail-là. C'est peut-être, je sais pas si le problème est juste là, moi. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça.
Il y a un travail du côté des médias qui se fait pas. Moi, l'année passée, j'ai publié un roman, OK? Bon, c'est dans la littérature. En 30 jours, il est sorti le 15 octobre, entre le 15 octobre et le 15 novembre, j'ai eu plus de couvertures de presse pour mon livre qu'en 30 ans en art visuel. C'est 360 fois plus.
Okay? C'est triste quand on pense à ça.
C'est ça, mais il y a des raisons pour ça. D'abord, ça veut dire que le système des médias, le système de la presse, il marche bien, il est rodé, il est fait pour la musique, pour le rock, pour la musique classique un peu moins, mais le rock, les chansons, ça va très bien. Mm-hmm. Les livres aussi. Toutes les émissions à Radio-Canada, le matin, l'après-midi, le soir, ils ont toutes une chronique de livres. Mais ils n'ont pas de chronique d'art visuel. Ça, c'est le système, il n'est pas installé. Donc si tu es un artiste visuel, le système ne peut pas te recevoir. Mm-hmm. Ils n'ont pas de rien pour te recevoir. Puis une autre chose, rapidement, il y a quelques années, moi, j'avais fait, par curiosité, l'inventaire des CV de ceux qui travaillent comme recherchistes dans les émissions culturelles à la radio-télévision. C'est tout du monde qui sont formés en littérature, en théâtre, en musique, en cinéma, sociologie, anthropologie. Art visuel, pas. Il y a ici Catherine Ève, naturellement, mais c'est très rare.
Une perle rare.
Donc si les recherchistes ne recherchent pas X, ben X ne passera pas à la radio.
Ouais. Richard, à qui la faute? À qui la faute? Pourquoi?
Aux réalisateurs, aux médias que ça n'intéresse pas. Puis à la faute aussi aux artistes qui ne s'imposent pas. Si les artistes
j'ai la question que je me demande, en fait, moi, j'ai pas de réponse, mais la question que je me posais, c'est je me dis, est-ce que c'est pas une affaire, en fait, de culture, là, de base, là.
Oui.
Je pense à un de nos collègues, Francis Arguin, qui revient de Hollande, puis il me disait, c'est incroyable comment la population, la ville est s'organise pour que les artistes vivent bien, aient des lieux de diffusion. Il y a vraiment, tu sais, c'est pas des gens spécialisés, là. C'est at large, là.
Puis c'est sûr qu'avec des radios qui prennent la liste des subventions données par la ville de Québec, puis qui blastent tout le milieu des arts visuels, puis qui confondent estampes avec étampes, ça aide pas tellement à éduquer une population. Ouais. Franchement, je pense qu'au Québec, puis peut-être particulièrement à Québec, il y a une culture qui aime haïr ce milieu-là. Et puis, en fait, je sais pas, c'est juste nuisible. Ça donne rien, sauf de monter les codes d'écoute à ces radios-là. Puis je trouve ça totalement déplorable et totalement irresponsable. Parce que, bon, on parlait il n'y a pas longtemps sur Punctum du refus global. Oui, mais tout le monde en profite au Québec maintenant du refus global. Puis ouais. Ça, c'est des artistes qui l'ont signé, c'est des artistes qui en ont vécu les conséquences aussi. Tu sais, c'est ce qui se fait aujourd'hui n'a pas nécessairement un grand impact aujourd'hui, mais va en avoir demain. Puis ça, c'est sûr et certain, c'est ça la culture. Puis la culture, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, c'est pour le futur. Donc de dénigrer ce qui se fait aujourd'hui au profit, disons, du Colisée, il faut avoir une vision à long terme aussi.
Puis, mais ce que je comprends, c'est que en fait, ce qu'on voit chez les journalistes, dans les médias en général, c'est le reflet de notre manque de connaissances, de culture.
On devrait... De curiosité,
Pense, mais donc, c'est plus profond comme problème. Ouais. Il faudrait peut-être aller voir du côté des écoles, ce qui se passe très jeune, de nos contacts qu'on n'a jamais avec les musées, les galeries, l'art en général.
On va répondre à cette question. On va répondre à cette question-là juste au retour de la petite pause audio avec Christophe Migonne. Alors, de retour avec Catherine F. Gadouri, Christian Messier, Dan Bro et Richard Sainte-Marie comme artiste.
Oui, ben en fait, avant de se laisser pour la pause musicale, ce que ce sur quoi je voulais ouvrir la réflexion, c'est est-ce que c'est pas un problème plus profond? Est-ce que ça vient pas des écoles, notre manque de contact avec l'art dès la prime enfance?
Ben en tout cas, moi, il y a une chose que j'ai remarqué. J'ai fait mon bac, ma maîtrise à l'Université Laval, et puis j'ai rarement été incité par les professeurs d'aller voir les expositions, de faire des comptes rendus et des choses de même. Alors, même les étudiants en arts plastiques ne se déplacent pas dans le milieu. Même
ni les profs.
Il y a un désintérêt.
L'École des arts visuels, la Fabrique, est sur Charest, à 5 minutes de marche de Méduse. Puis on voit pas ces gens-là, donc déjà, on ça voit pas
non,
mal.
On voit pas non plus les gens du Musée du Québec souvent non plus, mais c'est
aussi, aussi mais, ouais. Mais c'est quasiment plus compréhensible.
Mais tu vois, à Shawinigan, par exemple, là, où il y a une salle d'exposition assez importante, quand il y a eu la grève des professeurs dans les écoles, il y a quelques écoles primaires, Les choses que les profs ont faites comme la première chose, ils ont arrêté les sorties scolaires culturelles. Mais sportives, ils ont pas arrêté, par exemple. C'est dans, comme dit Catherine Ève, c'est pas dans notre culture, ici au Québec, à l'école primaire, de visiter des expositions. Ils le font, oui. Mais ils vont d'abord aller à la piscine, à l'aréna.
C'est parce que le problème, c'est comme, c'est pas dans notre culture, mais c'est parce que les gens qui enseignent, les gens qui vont, ben là, je parle mettons au primaire, les gens comme ça, c'est pas des gens nécessairement qui ont grandi avec ça non plus. Fait que c'est où qu'on commence. En fait, je pense que si les dirigeants des radios, les dirigeants des grandes compagnies, les dirigeants de nos pays, de nos provinces, de nos villes avaient ce souci-là de mettre ça sur la table, puis d'arrêter de penser que les arts c'est une chose bizarre, puis c'est une chose qui est faite pour rire des gens. J'ai-tu une tête de rigolo moi quand même?
Oui.
Légèrement.
On n'est pas là pour rire du monde. Je pense pas que les artistes qui passent leur vie à faire un métier qui est quand même pas facile font ça pour rire du monde. Je pense que c'est des gens qui sont sensibles, qui réfléchissent à la société. C'est peut-être pas aussi séduisant que l'humour ou le rock'n'roll, j'en conviens, mais c'est quand même un métier qui est important, je pense. Puis je pense, Christian, ce qu'il a dit tantôt, moi je reviens là-dessus, c'est qu'il dit on travaille pas nécessairement pour le présent. Puis ça, je pense que c'est un problème qu'on a. On est dans une société d'immédiat. On veut tout demain matin.
Ouais.
Puis là, nous, on pense à on regarde ce qui s'est fait en art dans les siècles avant. On en prend souvent connaissance aujourd'hui. Donc, c'est des années plus tard. Là. Fait que les artistes qui travaillent aujourd'hui, la reconnaissance va venir jamais, des fois. Là, c'est... Fait que je pense que ça, c'est un gros problème aussi qu'on auxquels on fait face. Là.
Puis un autre problème aussi, je reviens aux grosses radios qui continuent ce préjugé-là des subventions. Les subventions, là, c'est pas les artistes qui se mettent ça dans les poches. C'est, par exemple, bon, quand les centres d'artistes sont subventionnés, mais cet argent-là, une grosse partie va aux copies de la capitale parce que il faut imprimer des cartons d'invitation.
Ça va dans le milieu.
Ça, hein. Ça va dans les compagnies de bière parce que ça prend de l'alcool au vernissage. C'est toutes sortes de préjugés qui sont maintenus. Si les arts visuels n'étaient pas rentables, sérieusement, posez-vous la question, là. Est-ce qu'on serait subventionné? Est-ce que le pays nous donnerait de l'argent pour faire ça? Ça, moi, ça me surprendrait. C'est sûrement rentable en quelque part. Puis, sérieusement...
Parce que l'argent, la plupart du temps, est réinvesti. Là. Mm. On ne fait pas de l'art avec rien. On ne va pas dans le sud avec ça. Là.
C'est si peu d'argent parce que ce que les gars dont tu parles dans ces radios-là parlaient, c'était à peu près 13 millions sur un budget de la Ville de Québec, 1 milliard 800 millions. C'est 20 piastres sur mon compte de taxes par année. Mais si je peux leur envoyer le 20 piastres, mais s'ils l'ont pas, je
vais leur prêter. Ce qui est ridicule, c'est que ils s'attardent sur quelque chose que je trouve très insignifiant, moi, en fait, parce que je veux dire, si on se met à réfléchir à ça, là, les problèmes de financement, là, puis de où va l'argent, je pense qu'il y a des problèmes, puis il y a des endroits qui sont encore plus louches que donner une subvention à un artiste qui va recevoir 10 000 piastres pour une année pour vivre, puis faire sa production, puis payer son atelier, puis payer ses matériaux. Quand même, là, je veux dire, on paye des compagnies pharmaceutiques, on les subventionne, puis ils font déjà pas mal plus d'argent que la plupart de toutes nous autres réunies à table. Là, fait que...
Mais en même temps, je veux ramener un peu le débat au manque de couverture. Non, mais c'est bien. Mais certainement, ces préjugés-là encouragent le fait que les journalistes fréquentent pas beaucoup les galeries, peut-être, là, qui sont influencés par ces préjugés-là. Mais ça va plus loin. Moi, je comprends pas. Par exemple, Dan, t'es quelqu'un d'hyper accessible, tu parles bien de ton travail.
Je suis sur la rue, je suis pas parlable, je suis bête.
Mais pourquoi les journalistes n'ont pas envie de couvrir ces expositions-là? On pense à Diane Landry qui exposait du côté de l'œil de poisson, un travail fabuleux, pas beaucoup de couverture, je me l'explique pas.
Mais j'aimerais revenir à la dernière table ronde où est-ce que Danny Quinn,
oui.
Quinn, commençait par dire oui, mais tu sais, c'est. On a de la misère à y aller parce que c'est pas invitant. Mm. Puis après ça, il compare les arts visuels ou la culture à la différence entre un bon vin puis un mauvais vin. Puis il dit que finalement, tu sais, quand on se met à boire du bon vin, on voit la différence, puis on s'aperçoit que c'est riche. Mais il va pas plus, j'ai l'impression.
En fait, ce qu'il disait, c'est que quand on connaît pas le vin, on peut confondre un cuvée du Patriote avec un Château Lafite, parce qu'on connaît pas ça. Puis plus on connaît le vin, plus on fait la différence entre le bon et le mauvais. Alors lui, ce qu'il nous disait avec cette... analogie-là, c'est que plus on connaît l'art visuel, plus on va apprécier l'art intéressant, intelligent. Là, on confond tout. Là. La semaine dernière, on parlait, par exemple, des peintures de certaines vedettes, comme Diane Dufresne, comme André Montmorency.
Mais ça, c'est de la consommation. Je pense que c'est ça, moi, là-dessus.
Mais
c'est un problème de consommation. L'art visuel, c'est pas le plat le plus digeste, parce que ça prend... il faut prendre le temps, il faut s'investir, je pense que... c'est peut-être la différence avec d'autres médias qui sont beaucoup plus, je disais tantôt, c'est peut-être un manque de séduction aussi. Je pense que tu vas voir un show de musique, mais tu peux acheter le CD, puis ramener chez toi, puis l'écouter. Si tu vas avoir une installation de Diane Landry, tu peux pas avoir ta petite installation de Diane Landry chez vous, puis la regarder, prendre ton temps, toi-même. Faut que tu ailles dans le lieu. Donc, il y a un investissement qui est demandé.
Mais tu vois,
je pense que c'est un...
Moi, j'y crois à ça. À mon exposition l'année passée, j'avais des produits. Mm-hmm. Les plus chers, c'était 5 000. Mais j'en avais aussi à 22 piastres, 20 piastres, 30 piastres. Mm-hmm. Puis avec ces 20 piastres puis ces 50 piastres-là, j'ai payé toute mon exposition, le transport, les encadrements qui manquaient et tout. Donc, j'ai couvert mes frais avec ces sous-produits-là. Mais tu parles de ces artistes qui sont connus, comme, mettons, Diane Dufresne, pour prendre celle-là. Elle a un plan de communication, justement. Son agent a un plan de communication, sa galerie a un plan. Mais les artistes que nous, on reçoit ici, ils n'ont pas de plan. Les galeries n'ont pas... L'Assiette a un plan de communication depuis quelques années, c'était pas fort avant.
Mais tu penses pas que si les gens vont à l'exposition de Diane Dufresne, c'est pas parce que la peinture s'intéresse les gens, c'est Diane Dufresne.
Ben, c'est sûr.
Ben, elle a une figure médiatique, elle a une tribune exceptionnelle qu'aucun de nous autres a. Puis moi, je suis pas très connu dans le monde, là, tandis que Diane, oui.
Mais il y a autre chose qui joue aussi. Je suis une formation en ce moment pour devenir entrepreneur. Et puis, il y a quelques semaines, on regardait les formes juridiques. Puis la forme juridique de l'OBNL, dont la plupart des centres d'artistes fonctionne avec des membres. C'est-à-dire que les gens, pas ceux qui font rentrer l'argent, mais les gens qui encouragent cet organisme-là sont des membres. Ce qui fait que, finalement, l'art qui est présenté pour les membres, dans la forme juridique, même si on veut autre chose, il reste que la forme juridique, c'est ça.
C'est entre nous, quoi.
Ça démontre ça. Et puis aussi, dans la même formation, mais la semaine passée, on parlait des 5 à 7. On sait que, tu sais, en art, il y a beaucoup des 5 à 7, les vernissages. Sauf que c'est pas les mêmes 5 à 7 que ceux pour aller faire du PR puis présenter commerce. Ouais. C'est ça, c'est très différent, mais c'est quand même, là, c'est fortement ancré. Alors, je crois que c'est aussi problématique et à réfléchir.
Mais le manque de plan de communication dont Richard parlait, effectivement, toutes les disciplines, on pense à la littérature, le théâtre, la musique, ces artistes-là ont des agents, donc des gens qui connaissent la business, parce que les médias, c'est une business. Hein. Et en art, malheureusement, ça n'existe pas, et parce que il n'y a pas d'argent.
Dans d'autres pays, oui, par exemple.
Dans d'autres pays, c'est ça.
Oui.
Donc,
aux États-Unis, ça marche beaucoup comme ça.
Et il y a des vedettes de l'art qui existent, là.
Oh oui.
Comme dans toutes les autres disciplines, on pense à Jeff Koons à Londres, qui est une superstar de l'art. Donc, c'est pas, ça peut se passer comme ça parfois. Mm-hmm. Je crois qu'ici, la structure est un peu déficiente.
Ben merci beaucoup, Catherine Ève, Christian, Dan, d'être passé ici, d'avoir débattu encore. On a avancé, je pense.
Ça prendrait une prise 3, je pense.
Les journalistes puis les artistes ensemble. Hein? On va se rencontrer.
Alors, donc, merci à vous d'être venu. Merci, Catherine Ève, d'avoir organisé
merci.
Ça. Et je sais que ton prochain sujet va aussi être un débat.
L'art et la politique.
L'art et la politique. Ah.